Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Quels sont les éléments à la base de la persuasion? Quels sont les facteurs qui nous poussent à accepter ou à refuser une proposition? Robert Cialdini est un sociologue passionné par les principes psychologiques qui influencent nos choix de satisfaire ou non une requête. Son livre « Influence et manipulation » présente des dizaines d'études et d'expériences scientifiques visant à comprendre les stratégies les plus efficaces à propos de la persuasion. Dans certains domaines, comme dans la publicité et la vente, ces stratégies sont utilisées par des professionnels pour influencer nos choix de consommateurs. Parfois, leur utilisation est sournoise, avec l'objectif précis de nous tromper et nous pousser vers un choix qu'autrement on n'aurait pas fait. On peut parler alors de manipulation. Même s'il existe des milliers de tactiques de persuasion, elles sont toutes reconductibles à six principes psychologiques qui régissent les comportements humains. Chacun de ces principes joue un rôle très souvent positif. La vie quotidienne est caractérisée par une multitude de situations complexes dans lesquelles nous devons faire des choix sans disposer d'informations exhaustives. Il est alors essentiel d'avoir des raccourcis qui simplifient les décisions sans perdre trop de temps ou d'énergie tout en maximisant la probabilité de faire les bons choix. Ces raccourcis sont les mêmes principes à la base de l'influence. Alors que des millénaires d'évolution de la société humaine ont permis d'affiner leur puissance et efficacité, il y a des exceptions où ces principes jouent à notre défaveur, de manière souvent inconsciente. Aujourd'hui, j'irai à l'essentiel des trois premiers principes et je traiterai les trois suivants dans la prochaine vidéo. Le premier principe de persuasion est la réciprocité. Cette règle dit que nous devons repayer chaque avantage que nous recevons. Elle s'accompagne d'un sentiment d'obligation. La règle est tellement importante pour notre vie sociale qu'aucune société humaine n'y échappe. Elle permet d'éliminer l'inhibition naturelle aux transactions. Un individu peut donner quelque chose à un autre en sachant qu'il ne s'agit pas d'une perte. La réciprocité a permis de développer des systèmes d'aide, de protection et d'échange au sein des sociétés humaines. Cette règle est suffisamment forte qu'elle nous pousse à accepter une requête que, sans l'obligation de réciprocité, nous aurons déclinée. Une expérience commune est la fleur ou le bracelet qu'un mendiant nous met dans les mains et qui refuse ensuite de reprendre, en insistant que c'est un cadeau. Puisque se sentir en dette envers quelqu'un est désagréable, nous préférons laisser une offre, même à contre-cœur, plutôt que partir avec les sentiments d'obligation. Une facette de la règle est que nous devons faire une concession à qui nous en a fait une. C'est aussi un bénéfice social. Tout groupe humain a intérêt que ses membres travaillent ensemble sur des projets communs. Il faut alors concilier les désirs incompatibles de chaque individu et favoriser la coopération. Les concessions mutuelles permettent justement cela. Nous pouvons faire les premiers sacrifices au bénéfice de notre partenaire, qui est alors obligé d'en faire un autre en échange. Ce principe est d'autant plus efficace qu'une fois enclenchées les concessions mutuelles, les deux parties se sentent responsables d'arriver à un accord final. Cet aspect de la règle peut être exploité à notre désavantage quand, par exemple, un vendeur nous présente d'abord une grosse requête et, après notre refus, nous présente une requête plus petite, celle qui l'intéresse vraiment. Soumis à la règle des concessions mutuelles, nous nous sentons obligés d'abord de faire une concession à notre tour et ensuite d'arriver à un accord final. Le poids psychologique de la règle est si fort qu'il est impossible de résister. Pour éviter d'en être victime, il vaut mieux la prévenir. Mais n'oubliez pas que dans la plupart des cas, cette règle est avantageuse. Le refus systématique n'est donc pas une bonne idée. La majorité des gens est honnête et s'efforce de bien appliquer la réciprocité. Mais si vous réalisez que la faveur initiale n'est qu'un artifice pour vous faire accepter une concession que vous auriez refusée autrement, voyez votre interlocuteur non pas comme un partenaire, mais comme un profiteur. Dès que la situation est vue comme une tentative de manipulation, vous vous libérez de l'obligation de réciprocité. La règle sociale ne dit pas qu'il faut répondre avec une concession à un geste calculé. Le deuxième est le principe de cohérence. Cette règle a aussi un rôle social précis. Elle permet de donner certitude et continuité à nos relations avec les autres. Être cohérent est valorisé. C'est une preuve de force de caractère, d'honnêteté, de rationalité. Quelqu'un dont les opinions, les paroles et les actes ne concordent pas est considéré faible, hypocrite, incapable de tenir une décision. Chacun a donc un désir très fort d'être cohérent dans son comportement, ce qui comporte un avantage supplémentaire. Une fois que nous avons pris une décision, nous n'avons plus besoin de dépenser notre énergie mentale à peser les pour et les contre. Cela permet de maîtriser un environnement complexe avec un minimum d'effort. Le problème est que l'habitude à la cohérence est tellement ancrée que nous l'appliquons même quand elle n'est pas l'attitude la plus appropriée. La cohérence est déclenchée par l'engagement. Si j'arrive à vous pousser à un engagement quelconque, à vous faire prendre position sur quelque chose, ce sera simple par la suite de vous pousser à tenir cet engagement. Une technique de vente assez répandue, les fameux pieds dans la porte, joue sur ce principe. Les vendeurs nous incitent à prendre un engagement très petit, presque insignifiant. Par principe de cohérence, il lui est plus simple ensuite d'obtenir des engagements plus conséquents. L'engagement est davantage renforcé s'il est mis par écrit, s'il est fait publiquement et si nous pensons de l'avoir choisi librement, sans pression externe. Bien que la cohérence soit en général louable, voire indispensable, il faut éviter l'application systématique et sans réflexion. Pour éviter de s'en trouver piégé, d'après l'auteur, il faut apprendre à écouter son corps. Dans les cas les plus évidents, nous sentons un creux dans l'estomac, un signal clair envoyé à notre cerveau pour lui dire « Attention, tu t'es fait avoir ». D'autres fois, la réaction est plus subtile, elle ne dure que quelques secondes. Dans ces cas, on peut alors se poser la question « Avec les éléments factuels dont je dispose maintenant, indépendamment des choix que j'ai déjà faits, quelle décision je prendrai ?» Le troisième principe est la preuve sociale. Ces principes s'appliquent dans des situations où nous ne savons pas bien quel comportement adopter. Nous jugeons un comportement approprié si nous voyons d'autres personnes l'adopter. Et souvent, c'est le bon choix. Nous faisons moins d'erreurs en nous conformant aux autres qu'en allant à leur rencontre. Comme pour les principes précédents, il y a par contre des situations où ce n'est pas la meilleure approche. Par exemple, quand les autres non plus ne savent pas quel est le bon comportement à tenir, et nous observent à leur tour pour décider quoi faire. Les phénomènes inexplicables où dans une grande ville, beaucoup de passants assistent à une agression ou à un malaise en totale indifférence est une conséquence directe de la preuve sociale. Quand la situation se produit, personne ne sait exactement quoi faire, et tous se regardent autour pour décider les bons comportements adoptés. Puisque nous préférons toujours avoir l'air calme et assuré, nous cherchons ces indications sans bruit, en regardant discrètement autour de nous. Par conséquent, chacun verra que les autres semblent impassibles et que personne n'agit. En vertu de la preuve sociale, chacun conclut que la situation ne demande pas de mesures urgentes. Encore une fois, le pilote automatique fourni par la preuve sociale est plus souvent un allié qu'un ennemi. Ce serait contre-productif de les débrancher complètement. Il faut par contre apprendre à identifier les situations où il y a des erreurs. Un premier cas est représenté par la manipulation volontaire des informations. Les indices ont été délibérément falsifiés pour nous pousser vers des conclusions erronées. C'est le cas de certaines publicités. Un autre cas est celui où personne ne sait quoi faire. Quand nous sentons que notre réaction instinctive et les indications données par le groupe sont en contradiction, il vaut mieux enlever les pilotes automatiques et évaluer la situation de manière réfléchie. Voilà, vous avez découvert les trois premiers principes de persuasion présentés par Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les trois principes restants, l'autorité, la sympathie et la rareté. Est-ce que vous avez des exemples où votre comportement a été influencé par ces principes ? Comment avez-vous réussi à faire face à la situation ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.